C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Bimba Kamanga à la présentation.
Merci, Salama. Bonsoir. Nouveau rapport de l'ONG internationale Global Witness. D'après cette ONG, l'exploitation et le trafic illicite des ressources minières des deux Kivu par les FDLR, les groupes armés locaux et les éléments FARDC alimentent la guerre à l'est du pays. Sur quoi s'est basée cette ONG pour établir ce rapport? Quelles solutions recommande Global Witness pour mettre fin à ces pratiques et comment les autorités congolaises ainsi que la communauté internationale y réagissent? C'est le sujet au centre de ce débat et comme invité, nous recevons dans ce studio Madame Karina Terzakian. Elle est seule au studio ici parce que les deux autres invités sont au téléphone. Madame Karina, elle est responsable du programme RDC pour Global Witness. Bonsoir Madame.
Bonsoir.
Nous avons le ministre Lambert Mende, il est ministre de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement central. Monsieur le ministre, vous êtes en ligne? Il n'est pas encore en ligne, on me signale qu'il n'est pas encore en ligne, mais on doit aussi avoir en ligne Aloïs Seguera, lui il est directeur de l'Institut de Recherche pour l'Institut. Bonsoir Aloïs.
Bonsoir. Allô?
Voilà, Aloïs est en ligne et puis on va attendre d'avoir le ministre de la communication et des médias. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Alors, sur quoi s'est basée l'ONG Global Witness pour établir son rapport, un rapport d'après lequel l'exploitation et le trafic illicite de ressources minières des deux Kivu par les FDLR, les groupes armés locaux et les éléments FARDC alimente la guerre à l'est du pays? Kelly Kouté a parcouru ce rapport, elle nous en donne les grandes lignes.
Selon ce rapport, tous les principaux belligérants dans les conflits de deux Kivu sont fortement impliqués dans les commerces des minerais. À titre d'exemple, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR ont la même mise sur les commerces des minerais dans les grandes zones du nord et sud Kivu. Ces rebelles auto-rwandais extorquent des minerais et de l'argent aux creuseurs en leur exigeant une commission de 30% des recettes minières dans certaines zones. À part les FDLR, les CFDP et autres groupes armés tels que les Mai Mai profitent aussi du même trafic doublé de leur propre système de taxation. Les FARDC ne sont pas épargnés. Selon Global Witness, ils sont fortement impliqués dans l'activité minière de Bévi, la plus importante carrière de cassiterite du Nord Kivu, qui compte environ 80% des exportations des minerais de cette province. Des éléments FARDC ajoutent à même ONG collaborent souvent avec les FDLR de partage des territoires et zones minières à l'expédition des minerais, les A, à travers les zones contrôlées par les autres. Outre les groupes armés, indique Global Witness, le Rwanda et le Burundi servent des voies d'exportation vers les marchés internationaux. Parmi les recommandations, l'ONG pense que cette situation peut être combattue au niveau national et international. Le gouvernement congolais, notamment, devrait soumettre la chaîne d'approvisionnement des minerais à un dispositif de contrôle plus serré. Et aux autorités militaires congolaises, il est recommandé une surveillance de près de la conduite des brigades militaires déployées dans les zones riches en minerais.
Merci Karine Kouté. Madame Karina, vous avez un mot à ajouter? Est-ce qu'on a... Vous avez retrouvé les grandes lignes de votre rapport?
Oui, tout à fait. Vous avez très bien résumé. Le seul point que je pourrais peut-être ajouter, c'est la dimension internationale du problème.
Oui.
Puisque ces minerais qui sont produits par les groupes armés ou par les militaires sont exportés, donc les comptoirs d'achat congolais vendent ces minerais à des sociétés étrangères qui sont basées dans différents pays à travers le monde, y compris des sociétés européennes, asiatiques ou autres. Donc le rapport décrit également le rôle de ces entreprises et leur devoir d'assumer une responsabilité face à ce problème, mais une responsabilité qu'ils ont refusé d'assumer jusqu'à présent. On dirait que la plupart de ces sociétés préfèrent fermer les yeux sur l'impact de leur commerce, sur la situation, surtout la situation des droits humains à l'est du Congo et la situation de la population civile congolaise.
Voilà, donc la responsabilité est partagée, hein, pas seulement le gouvernement, mais aussi la communauté internationale, mais aussi ces entreprises internationales.
C'est ça. Comme vous l'avez souligné dans votre résumé, bien sûr, la première responsabilité se situe au niveau du gouvernement congolais. Donc, nous avons plusieurs recommandations adressées au gouvernement congolais, mais il y a également cette responsabilité internationale. Et je dirais que, bon, en premier lieu, ce sont les entreprises qui devraient avoir des procédures de contrôle pour comprendre exactement d'où proviennent les minerais qu'elles achètent. Mais puisque ces entreprises, ne sont pas disposées à le faire correctement, nous demandons alors au gouvernement des pays où ces entreprises sont enregistrées de mieux surveiller le comportement de ces entreprises et de leur demander de leur rendre des comptes.
Voilà. On va d'abord écouter, puisque nous n'avons pas encore le ministre de la Communication, la Mère Mende. Nous savons que lui répond souvent sans problème, il participe facilement au débat. Aloïs, comment vous avez accueilli ce rapport de Global Witness?
Ce rapport de Global Witness se situe dans la ligne de ce que Global Witness fait faire. Donc, en fait, c'est dans la ligne de votre rapport qui va être produit avant. La plupart des informations qui sont dans le rapport sont des informations, en fait, qui sont connues et aussi qui ont été publiées par d'autres institutions. Donc, dans l'ensemble, c'est un travail bien fait, un travail qui est vraiment bien sorti. C'est assez bien. Mais en fait, pour moi, ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est plutôt aussi la nature du débat derrière le secteur minier, parce que c'est facile de dire, écoute, il y a la cassiterite qui est produite par les bandes armées, les FDLR, etc. Et en même temps, il y a les entreprises étrangères qui achètent. Mais en réalité, c'est peut-être là le premier point du débat qui serait intéressant. Je n'ai jamais vu. Ok, l'eau qui sort du Congo semble des papiers indiformes. Donc, quelque part, ce qui sort du Congo est légal, parce qu'ils ont des papiers, etc. Maintenant, l'autre problème, quand je vois, par exemple, une province comme le Nord Kivu, où, d'après nos études faites en 2006, les exportations de la province, les deux tiers sont représentés par les minerais, notamment la cassiterite. Et dans ce sens, ça représente les deux tiers des revenus d'une province. Et dans le débat autour de l'exploitation artisanale des minerais, il y a aussi la question derrière, les revenus des provinces, de certaines provinces en tout cas, dépendent aussi de ça. Donc c'est ce genre de débat qui m'intéresse et ce qui peut se construire autour de ça.
Est-ce que vous pensez, vous par exemple, au niveau du Pôle Institut, qu'effectivement le trafic illicite des ressources minières dans ces deux provinces du Sud et du Nord Kivu, alimentent la guerre?
Bon, ce qui est peut-être vrai, c'est que pendant le temps où il y avait effectivement le pays divisé entre trois rébellions, où le RCD occupait pratiquement l'est du Congo, le gouvernement Kinshasa occupait l'ouest jusqu'au Kasaï, les MSG occupaient le nord. Ça, effectivement, à ce moment-là, on pouvait dire que l'exploitation des minerais qui se faisait dans chaque entité profitait à la guerre, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, si on me dit, écoute, il y a quand même l'armée qui continue à exploiter illégalement, il y a les FDLR qui continuent à exploiter illégalement, il y a quand même un gouvernement qui est là, qui est responsable, qui devrait répondre à ces questions de façon claire. Parce que c'est pas acceptable que les FDLR au Sud Kivu et à Walikale dans le territoire du Nord Kivu, ils font carrément un état dans un état. La responsabilité incombe d'abord au gouvernement congolais avant de s'attaquer nécessairement à d'autres problèmes qui sont assez clichés, bien sûr, qu'ils sont inclus dans le circuit de commercialisation. Mais comment se fait-il qu'avec un gouvernement légal, on peut avoir des îlots qui sont carrément des états dans un état?
Voilà. Vous dites que la responsabilité incombe d'abord au niveau du gouvernement congolais. Nous n'avons toujours pas encore le ministre Lambert Mende, mais nous avons un son qui est passé dans l'une de nos émissions Écho d'économie, animée par notre confrère Georges Kamoudova. Et dans cette émission, le ministre des Mines du gouvernement congolais a eu justement à dénoncer l'implication notamment des militaires congolais dans le trafic illicite des minerais. Martin Kabonoulou, C'est un son qui est déjà passé sur Radio Okapi, on va l'écouter.
Selon les derniers rapports que j'ai reçus, il y a des militaires qui continuent à exploiter Mkale, mais maintenant ils ne passent plus par, directement par Goma, mais ils passent par un petit aérodrome qu'on appelle Anis, et de là ils prennent les minerais, les avions vont là-bas, ils prennent les minerais, ils vont soit à Kisangani, soit à Goma. Et nous avons déjà découvert cela. Et j'ai déjà appelé le commandant de la place, le général Mayala, le commandant de la 18e région militaire, je lui ai dit, et j'ai bien spécifié cela au ministre de la Défense. Je lui ai dit que vos militaires sont en train de continuer à exploiter les minerais. Alors, il attend une note que je cite, et après ce qu'on fait, je vais faire une note pour que ce monsieur qui est là-bas, un certain colonel Samy, c'est celui-là qui est en train de continuer à exploiter les minerais.
Alors, Madame Karina, est-ce que je vous repose pratiquement la même question, même si, d'après Aloïs Teguera, la première responsabilité, je crois que vous l'avez dit aussi il y a un moment, incombe d'abord au gouvernement congolais, mais est-ce qu'on peut finalement faire ce lien que si la guerre perdure dans les deux Kivus, c'est aussi lié à ce trafic illicite des ressources minières?
À notre avis, c'est l'un des aspects importants. On ne peut pas dire que c'est le seul aspect ou la seule dimension de la guerre. Non, bien sûr, il y a beaucoup d'autres facteurs, par exemple politiques, ethniques ou autres. Hein. Mais la dimension économique est importante. Et quand on voit, bon, prenons par exemple les FDLR. Au départ, les FDLR n'étaient pas présents sur place à cause précisément de la présence des richesses minières. Ils étaient là pour d'autres raisons. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails maintenant. Mais comme ils ont découvert que dans ces territoires où ils étaient présents,
ils peuvent se faire de l'argent.
Voilà, donc ils en ont profité. Ils en ont profité d'une manière très bien organisée. Et donc, ils ont mis sur place tout un système, tout un réseau commercial. Et maintenant, la situation qu'on trouve particulièrement au sud Kivu, c'est que les FDLR sont tellement bien implantés maintenant et qu'ils ont des intérêts économiques si importants que c'est très difficile de les chasser ou de les déplacer, et encore plus difficile de démanteler leur structure. Alors, c'est sûr que le commerce des minerais ainsi que le commerce d'autres types de marchandises leur permet de continuer leurs opérations militaires, de s'acheter des armes, par exemple, et de continuer de terroriser la population civile, puisque c'est ce qu'ils sont en train de faire. Même dans ces dernières semaines, on a vu d'ailleurs une recrudescence des violations des droits humains, des exactions commises par les FDLR, des massacres, des viols et ainsi de suite.
On a vu des témoignages, hein, il y en a dans votre rapport. Mais seulement parce que les FDLR sont censés, en ce moment où il y a l'opération Kimia 2, hein, qui est en cours, les FDLR sont censés être ennemis des FARDC, hein, sur le plan militaire. Mais comment, dans votre rapport, justement, vous parlez de cette collaboration qui existe entre FARDC et FDLR, notamment autour des zones minières?
Oui, alors ça, c'est un aspect que nous avons découvert qui est très inquiétant. Bon, bien sûr, au niveau officiel, des deux côtés, on nie qu'il existe une telle collaboration, et peut-être que la collaboration n'est pas une politique officielle du gouvernement, non, ni même de l'armée, peut-être. Mais on trouve quand même certains individus, et ils sont assez nombreux, dans l'armée, donc parmi les FARDC, qui, de toute évidence, ont vraiment des sympathies pour les FDLR et partagent même certaines de leurs préoccupations. Et donc on voit qu'au lieu de s'opposer à eux ou de les combattre comme ils sont censés le faire, ils collaborent et ils les laissent faire plutôt. Alors dans certains cas, on a trouvé qu'il y a vraiment une collaboration active, c'est-à-dire qu'ils se partagent les butins, si je peux exprimer ça comme ça. Dans d'autres cas, c'est peut-être une forme de collaboration plus passive, mais quand même importante. Donc on trouve par exemple côte à côte des FDLR et des FARDC, chacun contrôlant leur propre territoire, chacun exploitant les minerais dans leur territoire, ils traversent leurs zones respectives et ils laissent faire. Donc comme ça, tout le monde en profite, chacun s'enrichit et la situation perdure.
Oui. Et alors Aloïs Teguera, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, autour de cette collaboration surprenante quand même dans le contexte actuel, hein, entre FARDC et FDLR?
Bref, peut-être avant de répondre sur la question de la collaboration, je voudrais quand même insister sur un peu la nature qui fait que ce phénomène est possible. si Walikale est devenu un état, dans un état où la 85e brigade était devenue carrément un état dans un état, la première question que je pose, est-il possible qu'un colonel de l'armée fasse effectivement de Walikale un état dans un état sans une collaboration avec sa hiérarchie? C'est impossible.
Là, vous parlez du colonel Samy.
Oui,
donc,
moi je pense que Samy c'est peut-être la face visible, oui. Peut-être le visible facile à voir, mais je ne conçois pas un instant comment un colonel peut s'ériger carrément un état dans un état sans que la hiérarchie militaire ne collabore avec lui. Donc ça c'est pour moi la grande question à poser. Est-ce que comment c'est possible que dans cet état, alors et ça a duré pendant pas mal quand même de temps, le rapport de Human Rights, de Global Witness ce soir, je viens de dire que c'est quand même depuis 2006 jusqu'au début 2009, ça fait au moins 3 ans. Et ça, c'est quelque chose qui était connu, qui a été dénoncé par beaucoup de gens. Mais comment expliquer cela? Ça, c'est un peu le débat qui m'intéressait. Maintenant, ça, c'est possible aussi parce qu'effectivement, que ce soit Walikale et que ce soit la zone de Mwenga Shabunda, les FDLR sont en mesure de faire ce qu'ils font parce qu'effectivement, ce sont des zones isolées. Et moi, je me demande, et c'est ce que d'ailleurs le Pôle Institute pousse dans son lobbying par rapport à cette question des FDLR, je me demande si, par exemple, on pouvait avoir une route asphaltée de Goma jusqu'à Walikale, et que tous les Congolais partiraient de Goma le matin et rentraient le soir de Walikale, ça change la nature de Walikale, et ça change aussi le poids des FDLR sur la population là-bas. Ça, c'est le type de choses, et d'ailleurs, ça coûterait moins cher, parce que on a déjà fait des calculs. Si on voit, par exemple, une route asphaltée Goma-Walikale, ça a à peu près 160 km, si on compte 1 million d'euros par kilomètre, nous sommes autour de 160 millions d'euros. Ça, c'est rien par rapport à ce qu'on paye à la Monique, si on voit leur budget annuel. Donc, ça, c'est des choses si simples qui peuvent régler la question. Maintenant, cette collaboration, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que Karine est en train de dire. Elle n'est pas la seule à le dire. Les autres chercheurs qui ont fait Walikale, Bissi, etc., ils ont constaté la même chose. Et donc, dans ce sens-là, cette collaboration, malheureusement, elle existe.
Collaboration qui existe. Là, c'est Passy maintenant, au niveau des auditeurs. Passy nous écrit les Goma. Lui, il dit, il pense que l'exploitation illégale des richesses minières par les groupes armés et des éléments en FARDC dans les deux Kivus prouve à suffisance la complicité des autorités congolaises en place pour s'enrichir et, dit-il encore, préparer ainsi les élections 2011. Juge Sushi Kasongo nous écrit de Kamina en Katanga. Lui se demande comment expliquer que l'FDLR exporte les minerais de la RDC. Pourtant, la porte de sortie, c'est le Rwanda, pays qui recherche ces mêmes FDLR. Est-ce un arrangement entre le Rwanda et la RDC? Et là, nous revenons justement, Madame Karina, au rôle, parce que c'est dans le même rapport, votre rapport que vous venez de publier et présenter officiellement ce mardi, vous citez le rôle que jouent le Rwanda et le Burundi.
Oui, alors le Rwanda et les Burundi sont les deux principaux pays de transit pour ces minerais. Bon, il y a également l'Ouganda plus au nord, mais nous avons moins enquêté sur le Grand Nord du Nord.
Okay.
Donc le Rwanda et le Burundi, en fait, ce sont les voies principales par lesquelles ces minerais sortent du Congo. Donc là, nous parlons des exportations officielles, mais aussi des sorties officieuses ou frauduleuses même. Alors, si on prend par exemple le Rwanda, là, ce sont surtout les exportations de cassitérite et de coltan qui passent par cette frontière-là. Certaines de ces exportations se font de manière ouverte et officielle du côté congolais, donc ils rentrent au Rwanda plus ou moins officiellement. Mais le problème, c'est que les autorités rwandaises ne posent pas suffisamment de questions sur l'origine de ces minerais qui entrent dans le pays pour essayer, par exemple, d'exclure les minerais qui auraient été produits par des grosses armées ou par des militaires. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours facile de faire la différence.
C'est-à-dire une sorte de certification, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez, au niveau de ces minerais, que le Rwanda devrait faire.
Bon, une certification peut-être au sens large du terme. Alors, bon, mettre en place un système international de certification, ça demande toutes sortes de moyens. Bon, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Oui. Mais là, au niveau du Rwanda, donc c'est un pays voisin qui doit quand même aussi assumer certaines responsabilités, essayer au moins de poser des questions élémentaires sur l'origine précise de ces minerais. Donc pas seulement de savoir, par exemple, les minerais viennent de Walikale, mais précisément d'où. Est-ce qu'il y a des documents pour montrer la chaîne d'approvisionnement, qui sont les intermédiaires, qui sont les tiers, et s'il y a lieu de penser que, par exemple, une cargaison de minerais provient peut-être des régions contrôlées par un groupe armé, à ce moment-là, on devrait interdire cette exportation. Alors, au Burundi, on trouve la même chose, et je dirais même que la situation est encore plus désordonnée, parce qu'il y a encore moins de contrôles aux frontières, les contrôles sont beaucoup moins stricts encore au Burundi. Et là, c'est surtout l'or.
Burundi, c'est une sorte de passoire par rapport au Rwanda.
Je pense qu'une passoire, c'est le bon mot, en fait. C'est surtout l'or qui vient du Sud Kivu, qui passe par le Burundi, et ensuite qui est exporté par Bujumbura vers l'étranger. Et l'or, en fait, contrairement à la cassiterite et le coltan, la grande majorité des exportations congolaises d'or se font de manière frauduleuse. Donc même les autorités congolaises nous ont dit elles-mêmes très sincèrement qu'elles n'ont aucune statistique fiable sur les exportations d'or. Et c'est très inquiétant, pas seulement du point de vue du manque à gagner pour l'État congolais, mais parce qu'il y a de nombreuses mines d'or qui sont contrôlées soit par les FDLR, soit par les FARDC et même par des groupes Maïmaï au Sud Kivu.
Voilà. Nous n'avons pas encore pu poser, du moins faire réagir le Burundi, mais au moins nous l'avons fait avec le ministre rwandais des Mines. Lui soutient que le rapport de Global Witness est partiel et que le Rwanda n'a aucun souhait, celui de voir la paix revenir. Qu'un seul souhait, je n'ai pas dit le contraire. Le Rwanda, je répète, n'a qu'un souhait, celui de voir la paix revenir dans la région. On écoute Vincent Karega, il est ministre rwandais des Mines, il a été joint par Noéla Louzi Tukabami.
Donc, le problème crucial, c'est de répondre à la question fondamentale de désarmer et d'affaiblir ces forces négatives, mais laisser la région se développer, faire du commerce et aller de l'avant. Le Rwanda n'aurait aucun intérêt à financer ces forces négatives qui menacent le Rwanda plus que quiconque dans l'avenir. Mais je pense que l'analyse de Global Witness, c'est une analyse à moitié faite et c'est une façon d'échapper à la réalité que la communauté devrait aider le Congo et le Rwanda à démanteler ces forces-là, mais plutôt ils se concentrent à un volet seulement, le volet financement.
Mais il n'y a pas seulement les groupes armés qui menacent directement la paix au Rwanda, il y a aussi des groupes congolais. Et justement, en acceptant que ces minerais-là transitent par le Rwanda, n'est-ce pas là une manière d'entretenir le conflit dans l'est du Congo?
Je ne sais pas pourquoi ils veulent que tout le monde dans la région soit coupable. Nous, en tant que pays, nous n'avons jamais appuyé ou soutenir l'existence de ces forces-là. Au contraire, dans toutes les réunions internationales ou dans tous les efforts politiques de diplomatie, nous avons toujours recommandé à la communauté internationale de les désarmer, de les anéantir. Et ensuite, le commerce et le développement pourraient avoir lieu sans handicap.
Je vous donne d'abord la parole avant d'avoir Aloïs et Mme Karina pour répondre directement au ministre rwandais par rapport à ce qu'il dit. Votre rapport est partiel, c'est le ministre rwandais qui le dit.
Bon,
il échappe à la réalité, hein, ça on l'a entendu.
À notre avis, il faut voir les différentes responsabilités. Ce n'est pas que nous accusons telle ou telle personne ou que nous voulons que tout le monde soit coupable, non. Si vraiment le gouvernement rwandais est sincère dans ce qu'il dit, c'est-à-dire de ne donner aucun soutien au FDLR, bon, il faut supposer qu'ils sont sincères dans ce sens-là, alors si vraiment ils veulent affaiblir les FDLR, l'une des façons dont ils pourraient le faire, c'est justement en exerçant un meilleur contrôle sur les importations de minerais. Bon, tout le monde sait, au Rwanda aussi bien qu'au Congo, qu'une grande partie des minerais sont produits par les FDLR. Et on sait aussi que les pays voisins servent de voie de sortie. Alors, que le Rwanda fasse aussi son effort, il est capable de le faire, ils ont quand même des contrôles assez efficaces dans ce pays. Alors, s'ils exercent un meilleur contrôle, ils pourraient être aussi plus efficaces dans leur propre lutte contre ce mouvement.
Voilà. Et alors, nous avons une bonne nouvelle qui vient de la réalisation, on le signale. C'est Kelly et Guy Maté qui me signale que le ministre Lambert Mende vient de nous rejoindre. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, monsieur le ministre, comment vous avez accueilli le rapport de Global Witness publié ce mardi?
Eh bien, ce rapport, en fait, vient un peu enfoncer une porte ouverte de ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo ne cesse de répéter depuis des années, bien avant même les dernières élections. Nous avons toujours dit, nous, RDC, que nous étions victimes d'une guerre économique. Le ministre Tambwe des Affaires étrangères en a fait même une note qu'il a communiquée aux diplomates peu avant l'opération Umojawetu. Nous sommes victimes de nos richesses, le président l'a dit. Ce sont des gens qui veulent piller nos richesses, parfois en complicité avec certains de nos compatriotes, qui peuvent même être dans nos institutions, dans nos structures, qui sont en train de nous faire la guerre, en excitant d'autres raisons, mauvaise gouvernance, peut-être mal le fait qu'on malmène certains membres de certains groupes ethniques, mais même peu économique.
Oui.
C'est ça, nous sommes d'accord.
Oui. Et monsieur le ministre, quand vous dites que on nous fait la guerre avec la complicité des compatriotes, là nous avons suivi, je ne sais pas si vous avez suivi votre collègue Martin Kabonoulou, c'est un vieux son, mais où déjà il dénonçait, il a même cité un colonel, le colonel Samy, et ce colonel est aussi cité dans le nouveau rapport de Global Witness, mais d'après nos informations, le même colonel serait encore dans les rangs des FARDC. Pourquoi il n'est pas puni?
Je pense que c'est un problème de temps. Vous savez que les FARDC ont toujours été empêchés, je le dis bien empêchés, parce que lorsque on parle d'embargo et tout ça, un pays qui est agressé, vous reconnaissez l'agression, mais vous le maintenez sous embargo, c'est comme si vous l'empêchiez de se défendre. Donc on n'a pas suffisamment développé de solidarité envers notre pays, à travers son armée, pour la rendre capable de se restructurer, comme le président de la République est en train de la faire maintenant. Donc c'est le temps qu'il nous faut pour pouvoir rétablir notre autorité sur l'ensemble de ces territoires, notamment sur des coins où ces gens, même lorsqu'ils portent notre uniforme ou prétendent le porter, sont en train de travailler en fait contre l'intérêt de la République.
Donc il faut beaucoup de temps pour qu'ils soient punis, ces gens-là.
Ah, il faut le temps que les moyens disponibles permettent aux structures responsables de pouvoir étendre leurs mains jusque-là, mais vous savez que ce processus a commencé. Je pense qu'auparavant nous avions plus ou moins 60 à 70% de provinces comme le Nord-Kivu qui échappaient à notre autorité. Maintenant c'est un peu inversé, nous sommes à 60-70% du territoire qui est sous notre contrôle et nous continuons la reprise du contrôle jusqu'à ce que nous aurons les 100% et à ce moment-là je crois qu'on ne parlera plus de ces forces obscures qui nous causent tant de problèmes.
Oui, nous avons aussi dans cette émission, M. le ministre, Aloïs Teguera, lui il est directeur de l'Institut de Recherche Paul Institute. Aloïs, vous avez suivi le ministre et Karina aussi, comment vous réagissez? Aloïs?
Écoutez, je vais peut-être réagir à partir de la question que vous venez de me poser sur le rôle des pays voisins, etc., dans l'exploitation de minerais à l'extérieur.
Oui, le Rwanda et le Burundi, qui sont cités dans le rapport.
Oui, parce que effectivement, c'est là où on voit la différence des politiques nationales. Moi, quand nous faisions la même étude autour de flux de commerce transfrontalier, on s'est intéressé aux minerais. On s'est rendu compte très vite, en dialoguant avec certains commerçants, leur préférence, par exemple, d'exporter à partir de pays où la taxe à l'exportation est quasiment presque nulle. Et c'était un circuit assez simple. Ils disaient, nous avons l'avantage d'exporter quand la taxe d'exportation est presque zéro dans certains pays. Nous préférons le faire et tout ce que ce pays nous demande, c'est que le rapatriement des devises passe par les banques respectives de ce pays et qu'à la fin de l'année, on leur prend à peu près 30% sur le profit et pas sur le capital et qu'ils trouvaient que c'était intéressant pour eux. Alors nous nous sommes posé la question, pourquoi le gouvernement congolais ne peut pas faire la même chose? Encourager aussi, rendre carrément remettre à zéro la taxe à l'exportation, inciter les Congolais à exporter et développer des mécanismes pour effectivement récupérer l'argent à travers le système bancaire, etc. Ça, ça serait aussi des choses que sans doute pas mal de commerçants aimeraient faire. Donc déjà, une mesure pareille, Je ne vois pas un Congolais qui pourrait le faire à partir du Congo si c'est le même mécanisme pour qu'il le faire en Ouganda, à Kigali. Donc c'est pour moi aussi des politiques nationales pour encourager les commerçants à l'exportation et leur faciliter la tâche plutôt que les étrangers.
Oui, mais là, dans ce rapport de Global Witness, il s'agit d'un trafic illicite.
Bon, écoute, moi, nous-mêmes aussi, notre institution, quand nous avons fait l'étude, nous nous sommes rendus compte que, par exemple, entre Walikale et Goma, la moitié de la production qui a été signalée à Walikale arrive à Goma, il y a 50% qui disparaît dans la nature. Entre l'aéroport de Goma et la douane au Fida, à la sortie, il y a déjà 50% qui disparaît dans la nature. On s'est demandé pourquoi. Et nous sommes allés chercher le pourquoi les commerçants préfèrent carrément passer en fraude. Et quand on s'est rendu compte qu'ils ont affaire à peu près à 24 taxes différentes sur toute la chaîne de commercialisation, effectivement, ce genre de tracasserie et de taxation, parfois illégale et arbitraire, n'aide pas les commerçants congolais à faire le commerce comme tout le monde. C'est un parcours de combattants, il faut le dire.
Oui, madame Karina.
Oui, si je peux réagir au propos de monsieur le ministre, vraiment, ce qui me choque un petit peu dans la réaction, disons, des autorités en général, c'est ce manque d'urgence qui semble caractériser leur réaction. Donc, vous avez évoqué l'exemple du colonel Samy qui, pendant plus de 3 ans, avec sa brigade, était implanté dans la plus grosse carrière de cassiterite de la région. Alors,
habitier
justement dans le territoire de Walikale au Nord Kivu. Alors, je me demande comment on peut avoir une situation qui dure pendant 3 ans où les hautes autorités militaires et civiles gouvernementales sont parfaitement conscientes de ce problème parce que nous ne sommes pas les premiers à le dénoncer et on laisse faire. Alors, certainement, ce que nous avons découvert dans nos enquêtes, par exemple, c'est que, bien sûr, ce colonel-là et d'autres qui font la même chose sont en train de profiter eux-mêmes, mais qu'une proportion importante de ces bénéfices remonte jusqu'au sommet de la hiérarchie militaire.
Vous voulez dire jusqu'ici à Kinshasa ?
Bon, nous avons eu des témoignages précis indiquant que ça remontait au moins jusqu'au commandement provincial de la 8e et la 10e région militaire, donc du Nord Kivu et du Sud Kivu. Nous avons également reçu des témoignages que ça remontait jusqu'à Kinshasa. Alors, les autorités ont un devoir d'enquêter sur ces questions, d'enquêter sérieusement de façon indépendante et de traduire en justice les personnes responsables. Ce qui est le plus choquant dans tout cela, c'est justement l'impunité qui protège ces militaires haut placés. Et nous ne parlons pas du problème des petits militaires qui, bon, ils sont mal payés. Ça, c'est vrai, ça existe aussi, bien sûr. Mais quand on voit les commandants, les officiers qui s'enrichissent comme ça, je suis désolée, mais quand on dit ça prend du temps, la justice, combien de temps est-ce qu'il faut attendre? Combien de gens vont encore mourir entre-temps?
Monsieur le ministre Lambert-Mondé.
Oui, moi je comprends bien ces analyses-là. Je voudrais d'abord dire que il y a eu de gros poissons qui sont tombés dans nos filets. Madame parle du commandement de Goma. Je voudrais quand même lui rappeler ce que son rapport fait. C'est qu'il y a le plus haut responsable des opérations militaires à Goma, un colonel dont je n'ai plus le nom, qui est maintenant déféré en justice, qui a été révoqué, selon sentence par le chef d'état-major général des forces armées. Pourquoi est-ce qu'on tait cela? Pourquoi est-ce qu'on tait le peu d'efforts qu'avec le peu de moyens à notre disposition, nous entreprenons pour mettre de l'ordre au sein des forces armées? Nous savons que les problèmes sont sérieux. Nous avons un pays aux dimensions qui sont les siennes. Nous avons les moyens qui sont les nôtres. Nous sommes en ce moment même confrontés à toute une série de grèves ici à Kinshasa, à Lubumbashi, partout, qui risquent de bloquer l'ensemble des infrastructures du pays. Si nous ne parvenons pas à moduler le peu de moyens que nous avons entre la gestion quotidienne du pays et les impératifs de l'établissement de l'ordre. Nous n'avons pas rendez-vous avec quelqu'un. Madame ne doit pas nous faire croire qu'elle aime notre pays plus que nous. Nous sommes un gouvernement issu d'élections. J'ai l'impression que Global Witness attache la même grille d'analyse sur les phénomènes congolais que les ONG attachaient du moment de Mobutu, au moment où il n'y avait pas un régime qui serait contre ses actes devant le peuple. Non, nous ne sommes plus le régime Mobutu. Nous sommes un régime issu d'élections, et à moins que nous ne soyons suicidaires, nous ne pouvons pas négliger les problèmes que confrontent nos populations au risque de nous faire éjecter. Donc, il faut arrêter ce massacre-là de Kinshasa. Mmh. Vous avez vite fait de dire, on a des preuves que ça remonte à Kinshasa. Ces preuves, vous les avez données à qui? Vous nous avez cité quel officier à Kinshasa qui serait resté libre de ces mouvements après que des preuves aient été réunies contre lui. Non, mmh. vous ne pouvez pas aimer les Congolais plus que les Congolais ne s'aiment. Nous avons plus intérêt que vous-même mmh. à ce que l'ordre revienne, puisqu'il en va de notre vie. Nous n'avons pas un autre pays que celui-ci.
Oui, monsieur le ministre, mais nous nous rappelons quand même qu'on a eu le ministre de la Défense actuel, Mwando Simba, qui s'est dit menacé par des hauts placés dans l'armée parce qu'il voulait remettre l'ordre.
Pourquoi pensez-vous, mon cher ami, que le ministre ait été menacé s'il ne fait rien? C'est contraire à ce que madame est en train de dire. Si le ministre est menacé, c'est qu'il fait des choses. Donc il ne faut pas accuser les autorités congolaises de rien faire.
Non.
Donc ça, c'est vraiment la preuve de ce qui avance.
Ouais, le ministre...
Et que le gouvernement fait des efforts
ouais.
et que les mafias qui sont dans nos structures essayent d'empêcher ouais. ces efforts-là.
Ouais.
Alors il faut encourager le gouvernement au lieu de tout le temps piler du vin café sur son dos.
Alors, Aloïs, qu'est-ce que vous répondez à ce niveau du débat? Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Vraiment, je suis un peu désolé par la réaction de son excellence, monsieur le ministre, parce que quelque part, la légitimité du gouvernement commence par les élections de 2006 et l'histoire de la 85e brigade à Walikale, effectivement aussi débute en 2006, c'est quand nous avons un gouvernement légal. Donc, quelque part, nous acceptons, c'est pour ça que nous poussons en disant s'il y a la légalité dans le pays, ce qui est très important pour nous, c'est qu'en fait, effectivement, l'État puisse exister même dans les coins reculés comme Walikale. Et c'est ça l'enjeu du problème. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas acceptable qu'un colonel fasse un État dans un État, alors qu'il y a un État légitime quelque part dans le pays. Et pourquoi cela est-il possible? Comment on peut l'analyser? Comment on peut l'expliquer? Et c'est cette existence de poches de non-État, finalement, qui pose la question, mais finalement, pourquoi ces poches peuvent résister si longtemps et être efficaces? Effectivement, on contrôle tout un commerce et les circuits commerciaux de tout un secteur comme en Italie pendant 3 ans.
Voilà. Sans transition, on passe à la deuxième et dernière partie de cette émission. Je vous rappelle, nous parlons du nouveau rapport de l'ONG internationale Global Witness. D'après cette ONG, l'exploitation et le trafic illicites des ressources minières des deux Kivus par les FDLR, les groupes armés locaux et des éléments FARDC alimentent la guerre à l'est du pays. Quelles solutions recommande cette ONG pour mettre fin à ces pratiques et comment les autorités congolaises ainsi que la communauté internationale y réagissent? Et je vous pose tout de suite la question, Madame Karina, parmi les solutions qu'il faut pour essayer de régler finalement, mettre fin, notamment à ce trafic qui a un lien avec la guerre, d'après votre rapport. Madame Karina, je rappelle, elle est responsable, vous êtes responsable du programme RDC pour Global Witness.
Alors, le rapport comprend plusieurs recommandations, je ne vais pas les énumérer toutes, je vais en choisir une ou deux qui sont les plus importantes. En ce qui concerne les autorités congolaises, nous pensons vraiment que le problème de la justice est parmi les problèmes les plus importants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'impunité qui protège les personnes responsables, qui encourage ces situations et qui fait que ça dure maintenant depuis plus de 12 ans, donc depuis le début de la guerre, et très très peu de cas où vraiment ces personnes sont traduites en justice. Donc il y a une série d'actions que le gouvernement pourrait mener pour traduire en justice les criminels, mais aussi pour exercer un meilleur contrôle sur les commerçants, en particulier les comptoirs. Alors, deuxième aspect que je pourrais souligner, c'est la responsabilité au niveau international. Et là, l'une de nos principales recommandations est adressée aux entreprises qui achètent ces minerais en sachant qu'ils proviennent parfois de groupes armés. Alors, nous demandons à ces entreprises d'instituer des procédures pour beaucoup mieux contrôler et se renseigner sur l'origine de ces minerais. S'il se trouve que certains minerais probablement sont produits par des groupes armés, alors ne pas les acheter et trouver des alternatives.
Alors, réponse avec Monsieur le ministre Lambert Mende par rapport à la justice, au meilleur contrôle des comptoirs. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous répondez?
J'approuve tout à fait les propositions qui viennent d'être énumérées par la représentante de Global Witness. Je pense que c'est là que se trouve la solution, mais nous voudrions quand même que nos partenaires aillent un peu plus loin. Hein, j'approuve, mais en même temps je dis ce n'est pas assez. Il faut absolument que l'on aide cette justice. Vous savez, la justice, elle est présente. Nous avons même déployé un conseil de guerre opérationnel qui essaye de faire son travail avec des moyens extrêmement limités. Alors c'est bon de souhaiter qu'il y ait une justice, mais c'est mieux encore de donner à cette justice les moyens de son action. Vous savez très bien que tous ces problèmes, quel que soit ce que notre ami de Pôle Institut dit, tous ces problèmes nous ont été imposés par une décision de la communauté internationale de faire entrer dans notre pays, malgré notre volonté en 94, des éléments du Rwanda qui sont venus avec armes et bagages, qui provoquent toutes les conséquences dont nous avons hérité depuis 3 ans en ce qui concerne notre gouvernement. Donc il faut que la communauté internationale nous soutienne et de manière plus importante que les simples critiques, la simple distribution des bons points, des mauvais points. Les jeunes gens sont là, ils s'esquintent, ces jeunes juristes, ils sont aujourd'hui même, ils sont à Walikale, à Kanabayonga, partout, mais avec quels moyens? Les criminels ont plus de moyens qu'eux, il faut les soutenir pour que justement cette justice aille la main suffisamment lourde sur eux. Et je voudrais dire qu'on ne fait pas des miracles. C'est vrai que nous sommes tous impatients, mais l'État ne peut travailler qu'avec les moyens qui sont à sa disposition. On se dit que depuis 3 ans que le gouvernement est là, et voilà que jusqu'aujourd'hui, ce colonel sévit encore à Walikale. Mon Dieu, mais il y a des pays qui sont moins importants territorialement que le seul territoire de Walikale. Et le Congo n'a pas tous les moyens qu'il faut pour, en 3 ans, rétablir complètement l'autorité de l'État sur chaque centimètre carré. Nous y allons étape par étape, il faut qu'on le comprenne.
Et 3 ans quand même pour arrêter un colonel, monsieur le ministre, comment on va vous comprendre?
On a arrêté le chef d'Al-Qaïda depuis 2001, dites-moi, la première puissance du monde est à ses trousses depuis 9 ans. Il ne faut pas raconter des histoires. Qui a arrêté Osama Ben Laden depuis plus de 10 ans qu'il sévit? Il ne faut pas raconter des histoires. Oui. La guerre, on sait comment elle commence, personne ne sait comment elle se termine.
Oui, et là, il s'agit quand même d'un colonel de part d'essai, monsieur le ministre.
Osama Ben Laden, c'est juste un arabe qui n'a même pas une armée. Attention.
Voilà.
Nous parlons des mêmes choses.
Voilà. Voilà. Les auditeurs continuent à écrire. Pascal Béa estime que ces rapports sont toujours restés lettres mortes devant les autorités congolaises et la communauté internationale, d'autant plus que ce sont elles qui alimentent cette pratique. À quoi bon continuer à nous ressasser avec ces rapports pour nous distraire? Ça, c'est un auditeur qui le dit. Abunda Arsène de Beni, en Nord-Kivu, demande pourquoi le gouvernement congolais est toujours passif face à l'exploitation illégale de ses ressources minières. Est-ce que certaines autorités n'en tirent-elles pas profit? Claver Kahasa croit que la solution pour mettre fin à ce trafic illicite n'est pas seulement congolaise mais internationale, car c'est sur les marchés internationaux que se trouvent les acheteurs. Aloïs Teguera, directeur de l'Institut de Recherche Paul Institute.
Oui, moi je pense que, comme j'avais dit tout à l'heure, je pense que ce problème, dans les recommandations, je peux comprendre, disons, ce que Kaïne vient de dire, je n'en disconviens pas. Mais je voudrais quand même attirer l'attention à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on est en train de parler de cette exploitation artisanale de minerais, on oublie aussi qu'il y a des provinces entières qui vivent des revenus qui viennent des exploitations de ces minerais. Donc dans ce sens-là, ce qui est très important pour nous tous, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de meilleures régulations du commerce, dans la vérification et la sortie de ce qui est exporté,
et
qu'il y ait beaucoup plus de transparence dans le commerce. Parce que dire que effectivement une province comme le Nord Kivu, qui dont les revenus, le 2/3 des revenus dépendent des exportations de minerais, ça effectivement ça serait impossible tant qu'il y aura de l'offre et de la demande quelque part, les gens vont vendre, bien sûr.
Voilà.
Mais aussi il n'y a pas que les commerçants qui en bénéficient, mais aussi il y a les revenus de la province qui sont en jeu.
Voilà. Il nous reste plus beaucoup de temps, c'est presque une minute pour terminer cette émission. Madame Karina, comment vous répondez à Pascal Béa qui pense que finalement ce rapport ne font que nous distraire parce que rien ne change sur le terrain?
Rien ne change, mais il faut que ça change. Je pense que pour la population civile congolaise, on ne peut pas accepter que cette situation continue. C'est vrai que ce sont les mêmes pratiques qu'on observe depuis de nombreuses années, mais il faut bien que ça change un jour. Donc nous espérons qu'on contribue aux efforts, ainsi que par exemple aux efforts de la société civile congolaise pour attirer l'attention à ces problèmes, encourager les autorités à mettre en place des mesures plus efficaces. Et peut-être qu'on y arrivera un jour, il faut bien l'espérer, puisque cette situation reste complètement inacceptable.
Oui, alors M. le ministre Lambert Mende, qu'est-ce que vous répondez à Bunda, Arsène de Beni, qui, en fait, lui, dénonce la passivité du gouvernement dont vous faites partie.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une passivité. Il y a des mesures qui ont été annoncées à partir de Goma par notre Premier ministre. Vous savez que maintenant, on a interdit même l'usage des petites pistes d'aérodromes ou des aéronefs atterrissaient pour prendre des produits miniers sans aucune formalité. Nous avons aussi pris un train de mesures qui ont été annoncées début juillet à partir de Goma. Je pense qu'il faut donner le temps aux autorités de pouvoir mettre en œuvre ces mesures-là. Mais de toute façon, nous n'allons plus rentrer à la situation de départ.
Oui.
Nous ne reculerons pas dans ce combat. Nous recevons des encouragements de qui elles viennent, mais nous souhaitons que ces encouragements soient aussi pratiques. Il faut que ce soit concret pour pas que nous soyons, nous, les seuls acteurs et les autres sont des spectateurs alors que c'est une situation qui nous a été provoquée par la communauté internationale.
Voilà. Monsieur Lambert Mende, monsieur le ministre, merci. C'est parti la fin de cette émission. De Dieudonné Nyangasa était à la technique et Guy Maté à la réalisation. Merci à tous de nous avoir suivis.